Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de toujours suivre Economia pour mieux comprendre les sujets économiques. Economia nous conduit aujourd'hui en Belgique pour parler de la 5e édition de la conférence mondiale sur le cacao qui s'est tenue à Bruxelles et où ont pris part les acteurs de la chaîne de valeur du cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus grands producteurs du cacao avec plus de 60% de l'offre mondiale y ont pris part. Et avec notre invité Ousmane Gbané, banquier d'affaires spécialiste en négoce, nous parlerons dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie des enjeux et retombées d'une telle rencontre mondiale pour ces deux pays. Mais avant, rappelons que vous aurez le lexique économique et vers la fin de l'émission, les tendances de la bourse. Bienvenue et merci de nous suivre.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Le cacao durable.
Le cacao durable, c'est du cacao cultivé dans le respect de l'environnement et d'une façon qui contribue à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs familles et qui permet d'abolir le travail des enfants et protéger l'environnement.
La loi sur la déforestation de l'Union européenne.
La loi sur la déforestation de l'Union européenne vise à interdire la mise sur le marché ou l'exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Le champ d'application du texte couvre donc sept produits que sont le café, le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme, le soja, le bois, l'élevage de bœufs, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé.
La vente par anticipation.
La vente par anticipation, c'est la vente dans laquelle l'acheteur verse en une ou en plusieurs fois une partie du prix du bien ou du service vendu avant que celui-ci ne lui soit fourni. La vente peut être ultérieurement combinée avec un système de crédit.
Regard sur la gestion économique nationale.
Ousmane Gbanet, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumé.
Le monde du cacao s'est réuni à Bruxelles pour la 5e édition de la conférence mondiale du cacao qui s'est tenue du 21 au 24 avril avec un thème assez évocateur, payer plus pour un cacao durable. Alors, que vous inspire justement le choix de ce thème-là?
Alors, il faut d'abord repartir sur le contexte même du cacao durable. C'est pas que le cacao, c'est tout ce qui est produit dans les zones les zones déboisées. Et donc, il faut savoir que Bruxelles a commencé à faire initier une loi qui a été votée, normalement qui doit rentrer en vigueur le 1er janvier.
Oui, 2025.
Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, à ce que je sache, a été cartographiée. Donc, nos planteurs de cacao ont été, on leur a donné des cartes professionnelles avec leurs photos. Et donc, partout où ces planteurs, si leur cacao, leur champ de cacao provient des zones rouges qui a été cartographiée, qui a été déjà envoyée à l'Union européenne, ces produits seront bannis de rentrer sur le territoire de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire, moi je pense, parce que ça voudra dire quoi? Ça voudra dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de planteurs produisent leur cacao dans les forêts. Il faut qu'il y ait de l'ombre pour le cacao pour qu'il puisse produire. Donc, je pense que cette décision n'est pas vraiment dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire.
Alors, justement, le fait d'insister sur cet aspect-là, payer plus donc pour un cacao durable, c'est un signal que le monde du cacao envoie à inciter les producteurs à aller vers donc ce type de culture du cacao, c'est cela?
Oui, c'est ça. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que le cacao. C'est tout ce qui est produit. Là-dedans, vous avez le cacao, vous avez le café, vous avez l'huile de palme, vous avez le caoutchouc, le soja, le bétail, et le bois et le papier imprimé. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer spécifiquement sur le cacao, vous avez vu le prix flambe.
C'est cela.
11 000 et quelques dollars la tonne à New York. Alors que, bon, les planteurs sont à 1 500 le kilo.
C'est cela.
Donc, vraiment, aujourd'hui, il n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et Bruxelles le sait, mais Bruxelles refuse. Et je crois qu'il y a des voix qui se sont levées aujourd'hui pour leur demander de retarder cette loi sur la déforestation touchant les producteurs, notamment de cacao. Les nouvelles règles de l'Union européenne interdisant les produits provenant de zones qu'ils ont qualifiées de boisées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, rentre en vigueur en janvier et risque de détruire le commerce du cacao en Côte d'Ivoire.
Alors justement, hein, le Ghana et la Côte d'Ivoire qui sont les deux plus grands producteurs mondiaux, quels sont les arguments que ces pays peuvent avancer justement dans le sens de la prise en compte de leur réalité ou des réalités des producteurs?
La seule argumentation qui est sur la table aujourd'hui, c'est de retarder, puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana ont accepté de faire cartographier leur territoire. Les zones rouges ont été déterminées, ça a été envoyé, la loi a été votée au Parlement européen, à Bruxelles, donc avec l'onction de ces deux pays. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire retarder.
Un autre aspect aussi, c'est cette question du DRD, hein, le différentiel de revenus décent que les deux pays ont réussi à faire payer aux chocolatiers qui, bon, ont traîné les pas, mais qui commencent à entrer dans cette habitude-là. Une question primordiale à discuter aussi lors de cette conférence, n'est-ce pas?
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les industriels payent ce différentiel. Mais quand vous regardez ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, les prix ont flambé. L'accès au cacao est quasiment impossible pour ces industriels. Mm-hmm. Donc, c'est bien évidemment que ces industriels vont essayer de remettre en cause ce différentiel qu'ils payent. Mm-hmm. Parce qu'ils n'auront pas accès au cacao. D'ailleurs, le Ghana est en train de renégocier avec ces mêmes industriels qui ne pourront pas livrer ce que ces industriels ont déjà payé. Bien évidemment, peut-être la Côte d'Ivoire aussi, parce que quand vous vendez le cacao comme le système que nous avons ici en Côte d'Ivoire
anticipation.
Et au Ghana, par anticipation, le cacao a été déjà vendu et il se trouve que la production est largement en dessous de ce qui a été vendu. Compte tenu des maladies et puis compte tenu aussi de l'âge des cacao cultures, donc il va falloir renégocier avec ces gens-là pour essayer de dire, écoutez, on ne pourra pas vous livrer, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, dans ça, bon, eux, ils vont vous répondre aussi, ben, écoutez, on ne peut pas vous payer ce différentiel. Donc, ça sera remis en cause. Et je crois que le président du Ghana a donné une indication sur ça quand le premier ministre ivoirien et une délégation sont arrivés au Ghana pour installer leur nouveau bureau.
Justement, le siège de l'initiative, donc Côte d'Ivoire-Ghana, donc pour le cacao. Alors, justement, aujourd'hui, hein, la question de tous ces pays producteurs, c'est de faire en sorte que l'essentiel de l'argent donc généré par le système cacao puisse revenir donc aux producteurs, en tout cas qu'on puisse mieux les payer. Vous, en tant qu'expert aujourd'hui, banquier d'affaires, économiste, comment mieux rémunérer les efforts des pays producteurs et partant des producteurs de ces pays-là?
Moi, je pense que aujourd'hui, vu que le monde a très très évolué, tous les planteurs ont des smartphones. Si c'est pas deux ou trois, quand j'étais venu en Côte d'Ivoire la première fois, j'étais très surpris de voir tout le monde avec deux téléphones, trois téléphones. Et donc aujourd'hui, ils ont accès à l'information. Je pense que le processus de la quête de stabilisation qui avait été initié sous le président Houphouët-Boigny est arrivé à un terme. Il faut regarder et faire vraiment une réflexion sérieuse pour faire peut-être une combinaison de ce qu'on a aujourd'hui avec un marché ouvert. Permettre, par exemple, je prends comme ça, hein, sur le volet. On peut décider de faire la grande saison de cette vente comme on l'a fait en ce moment, c'est-à-dire la vente par anticipation et la petite saison ouverte. Par exemple.
Ouverte, ça veut dire permettre aux producteurs même de commercer directement avec ceux qui veulent acheter, c'est ça?
Voilà, un système de l'offre et de la demande, ce qui fera que la petite saison, par exemple, si on était dans ce modèle-là, cette petite saison, par exemple, le planteur serait libre de vendre au prix du marché. C'est-à-dire qu'il se retrouverait aujourd'hui en train de vendre, même par anticipation, au prix de 7 000 $ le kilo.
Mais est-ce que les paysans sont assez avertis, assez formés pour cela, vous craignez pas?
Justement, c'est là où quand vous êtes premier producteur de cacao, quand votre richesse provient du cacao, du pays, je parle de la Côte d'Ivoire,
c'est cela.
40% de la production mondiale. Donc, la richesse de la Côte d'Ivoire provient de ce secteur. Mmh. Il faut les former, il faut faire une refondation, les former, leur apprendre comment diriger eux-mêmes leur entreprise. Parce que c'est une entreprise, hein, au final. Ils payent des impôts, c'est leur bien, c'est eux qui ont décidé de rentrer dans cet environnement. Ce sont leurs investissements. Ben, écoutez, l'État ne peut pas se mettre là et puis dire que bon, on va les protéger. Il faut quelque part les former, ça c'est le travail même de l'État. Mm-hmm. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien leur travail. Mm-hmm. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce que les Européens sont en train de faire en disant que bon, voilà, vous pouvez, il faut que vous diminuiez, donc il faut qu'il y ait des zones rouges, je comprends, mais c'est sur le cacao que nous on fait notre richesse.
Donc,
moi, je pense que le gouvernement, la Côte d'Ivoire, doit pousser, au lieu que ce soit des petits producteurs de 5 hectares, 10 hectares, peut-être qu'il faut donner l'opportunité aux producteurs d'être des producteurs comme en Europe, de 300 hectares, voilà, comme ça, ils pourront bien s'en sortir. Mais avec ce programme, malheureusement, de l'Union européenne, ça ne fait qu'empirer la situation.
Et certains suggèrent de nouveaux marchés. Hein. C'est vrai que l'Union européenne, pour l'instant, est un marché intéressant, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est important de développer d'autres circuits, d'autres zones de commercialisation éventuellement?
Mais vous allez être surpris. Le cacao ivoirien se vend partout. C'est vrai que les grands ports sont en Europe, mm-hmm. mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce que moi je vois sur les informations, les trucs techniques que nous avons, ce que moi je vois, c'est qu'en marge de ce qui va se passer en Europe, les Européens, les mêmes Européens sont en train d'acheter le cacao qui est stocké dans les ports de Albany à New York mm-hmm. et dans les ports de Toledo dans l'État de Ohio. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cacao ivoirien est en Asie, le cacao ivoirien en Europe et le cacao ivoirien est aux États-Unis. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, et puis même quand vous, tous ceux qui sont dans le système de cacao le savent, le cacao, l'origine du cacao importe, mais la fabrication du chocolat, c'est un pourcentage, la recette de chaque entreprise, c'est le pourcentage du cacao d'origine ivoirienne ou d'origine ghanéenne ou d'origine du Brésil qui fait la texture, le goût. Mm-hmm. Donc du coup, le cacao ivoirien est vendu partout dans le monde entier.
Est vendu partout. Mais est-ce qu'une piste aussi, ce n'est pas l'industrialisation au plan national où ces deux pays, grands producteurs, peuvent réfléchir à comment transformer ces fèves-là?
Mais je pense qu'on a déjà entamé ce programme d'industrialisation.
C'est cela.
Je crois que c'était en 2016, quand le président Ouattara a décidé qu'on transforme la plus grande partie de notre cacao en Côte d'Ivoire. Il a entamé ce programme, c'était en faisant un décret qui allégeait un peu ce que les industriels sur place ici payaient en taxes. Donc, ça a très très bien marché et je me rappelle très bien, je crois qu'il y a 3 mois, la Côte d'Ivoire est devenue le premier transformateur de cacao.
En tout cas, un grand broyeur.
Voilà, grand broyeur avant les États-Unis, avant l'Union européenne. Mmh. Donc ça, c'est une très bonne idée, c'est une initiative qu'il faut encourager, il faut continuer sur cette lancée. Et il y aura des pressions de part et d'autre pour qu'on essaie de lever ces trucs, parce que d'aucuns, en dehors de la Côte d'Ivoire, vont dire que c'est une concurrence déloyale, puisqu'il faut accepter de baisser les taxes pour les inciter à transformer ici. Mais au plan national, je pense que c'est une très bonne idée pour la Côte d'Ivoire.
Monsieur Ousmane Banet, je vous remercie.
Je vous en prie. Merci.
Tendance de la bourse.
Immersion dans l'univers du coach Kwao Brice, l'initiateur de l'école de la Bourse. Nous nous sommes rendus dans un hôtel à Cocody pour suivre une de ses séances de formation. Nous le trouvons en pleine explication des notions de bourse, mais il accepte de nous parler des sujets principaux abordés dans cette formation.
Ce programme que nous avons déroulé aujourd'hui tient en trois modules. L'initiation à l'investissement en bourse, comment investir en bourse et la gestion de risque. Donc ce programme fait suite aux articles que nous publions, aux vidéos que nous publions. Les gens viennent ici pour pouvoir avoir justement ces techniques concrètes-là pour investir avec succès à la BFVM. Tout à l'heure, on a abordé par exemple l'investissement de croissance et on a expliqué que la dynamique économique des entreprises tire des fois dans le sens haussier leur cours de bourse. Donc une entreprise performe et par derrière, son action évolue. Sur cette base-là, vous pouvez placer votre capital et avoir 3, 4 fois plus, comme c'était le cas cette année avec CFAO. Donc le fait de savoir qu'une partie de votre épargne peut être multipliée par 3 ou par 4, juste parce que vous surfez sur la dynamique des voitures neuves en Côte d'Ivoire, ça peut être, à mon avis, un élément encourageant pour comprendre comment anticiper ce type de phénomène-là.
Cela fait plus de 4 ans qu'il explique que les investissements en bourse sont aussi des moyens de recherche de ressources pour les ménages. Et à l'heure du bilan, il estime que du chemin a été parcouru en ce qui concerne l'école de la bourse. Kwao Brice.
Cette année, on va finir en hausse de 50% par rapport à l'année passée et en hausse de 200% par rapport à notre année de démarrage qui est 2016. Donc, il y a une dynamique de croissance. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, former 600 personnes, 700 personnes par an. C'est un résultat intéressant, mais on parle de millions de personnes qui ignorent la bourse. Donc il faut des solutions à plus grande échelle que des formations en présentiel. Ce sont ces solutions-là qu'on est en train de déployer avec notre site de e-learning, wari-academy.com. Donc grâce à ce site, toutes les populations, en tout cas qui parlent français, pourront se connecter et avoir accès à des cours complets sur l'investissement en bourse. Et l'année prochaine, on va rajouter l'immobilier, la crypto-monnaie, l'entrepreneuriat. En fait, un site d'éducation financière. Donc ça, c'est une capacité de 100 000 accès. Donc on change d'échelle complètement. Donc on veut que quelqu'un qui est au Mali, quelqu'un qui est en Guinée, quelqu'un qui nous écoute de partout, puisse, quand il se connecte, il fait son paiement en ligne et puis il a accès à ses cours.
C'est vrai, les chiffres sont encourageants, mais quand on compare à la cible potentielle qui est la population de l'UOMOA, il faut faire des efforts et pour lui, les autorités des différents pays de cet espace communautaire doivent œuvrer dans ce sens.
On est vraiment au début de quelque chose. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, le DG de la BFM avait donné un chiffre, il y avait 180 000, je crois, comptes titres ouverts en UOMOA. L'UOMOA, c'est 80 millions d'habitants. Donc, on est sur un taux de pénétration de 0,15. Donc, même si vous passez de 0,15% à 0,20%, ça fait une hausse de 33%. Mais 0,20%, qu'est-ce que c'est? Donc, on est sur une discipline qui est méconnue. Et on ne peut pas se satisfaire, comme je l'ai dit là, de dire, ah, on est en hausse de 50% sur l'année, on est en hausse de 100%. Non. Former 1000 personnes dans 80 millions d'habitants, c'est rien du tout.
Comme stratégie d'incitation que l'école de la bourse a trouvée, c'est de réunir en l'espace d'une journée des investisseurs en bourse déjà confirmés, des professionnels du marché financier et des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas. Et c'est ce qu'il appelle la convention des investisseurs en bourse.
Ce qu'on a voulu faire, c'est que, à part les formations, avoir un événement au cours duquel on réunit les investisseurs de la BFM, les professionnels du marché et les personnes intéressées par le sujet. Donc, c'est un événement qui a 2 objectifs. Les investisseurs de la BFM sont des particuliers. En tout cas, c'est ce que nous formons. Sur le marché financier, il y a 2 types d'acteurs. Il y a les particuliers et les professionnels. Donc, souvent, les 2 groupes se regardent un peu et puis chacun est dans son coin. Alors qu'on peut créer des cadres où ils vont échanger et les professionnels vont mieux comprendre les besoins des particuliers et les particuliers vont découvrir des techniques qui peuvent les aider dans la gestion de leur portefeuille. Donc, c'est la première idée, c'est le premier objectif de la convention. À côté de ça, cette convention est ouverte au grand public. Donc, on a des gens qui n'investissent pas en bourse. À la convention, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là viennent voir les investissements en bourse, partager leurs expériences dans un deuxième panel où vous allez découvrir qu'on a dans l'école un étudiant qui a investi depuis 2020 à la BFM qui est déjà à plus de 4 millions de gains. On a 2 dames qui ont investi en bourse depuis 2020 qui ont gagné plusieurs millions. Donc, Quand des gens voient des résultats, ça peut leur permettre de dire « Ah, vraiment, ce truc-là, c'est réel, ça marche, je vais m'inscrire. »
Mais en attendant cet événement, eux, ils ont compris le message de la nécessité de multiplier les opportunités d'investissement. Ils estiment que la bourse peut être une voie sûre.
Armel Jean-Claude Cassi, j'ai vu l'annonce et déjà que ça correspondait à mes aspirations, à mes attentes, parce que je traverse une petite période de difficultés financières, donc... Déjà, ça m'a attiré.
Madame Zeligou Madeleine, aujourd'hui, je me rends compte qu'au niveau des épargnes classiques, on ne gagne rien. À la bourse, on gagne. Ça me rassure, ça m'intéresse.
Au vu de ce témoignage, on peut lui dire lentement mais sûrement, cette idée d'investissement en bourse commence à être partagée par de nombreuses personnes qui, pour mieux évoluer dans cet univers, viennent acquérir des informations à travers ces séances de formation qui initient des structures comme l'école de la bourse.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.